Chapitre 2. Le chèque. M. Stéphel, directeur de la police de New York, se trouvait dans son cabinet, fort occupé à parcourir un rapport que venait de déposer sur son bureau le sergent Grogman, celui-là même qui avait été chargé d'opérer l'arrestation des évadés du Lunatic Asylum à la buvette du Grand Wigwam. « Ce Grogman est vraiment stupide, » grommelait-il entre ses dents. « Il croit tout ce qu'on lui raconte. » Si je n'avais que de pareils agents pour opérer la destruction de l'association de la Main Rouge, je crois que je serais longtemps avant d'y arriver. » À ce moment, le garçon de bureau remit à M. Stéphel une carte de visite. Lord Astor Buridan présente ses respects à M. Stéphel et serait heureux d'avoir avec lui quelques instants d'entretien au sujet des bandits de la Main Rouge. Le directeur de la police remit brusquement en place dans un cartonnier le rapport de Grogman, qui lui apparaissait maintenant dénué de toute espèce d'intérêt. « Lord Buridan, » dit-il au garçon du bureau ébahi, « faites entrer immédiatement. » Et il ajouta en aparté. « Lord Buridan, mais c'est cet Anglais excentrique qui a donné tant de fil à retordre à mes agents et contre lequel j'ai dû cesser toute poursuite par ordre supérieur. Il doit avoir des choses intéressantes à me raconter. » La minute d'après, Lord Buridan entrait dans le cabinet du policier, accompagné du poète Agénor, dont il ne se séparait guère depuis qu'après tant de périlleuses aventures, il avait eu la satisfaction de le retrouver. M. Stéphel accueillit courtoisement ses visiteurs, leur indiqua des sièges et attendit qu'ils prissent la parole pour les communications qu'ils avaient à lui faire. « Je ne suis pas un inconnu pour vous, mon cher M. Stéphel, » dit malicieusement Lord Buridan. « Mais non, » répondit le policier en souriant, « j'ai même sur vous un dossier passablement volumineux. C'est vous qui, entre autres facéties, jetez les chauffeurs en pâture aux crocodiles. C'est vous qui mettez en révolution les asiles d'aliénés où l'on vous enferme. Et le plus drôle, » répliqua Lord Buridan sans s'émouvoir, « c'est qu'en me livrant à toutes ces démonstrations, plus ou moins joviales, j'étais absolument dans mon droit. Il faut bien le croire, puisque j'ai reçu l'ordre formel de ne plus vous inquiéter. » Mais je vous avoue qu'il est resté dans toute cette histoire bien des points obscurs pour moi. » Et M. Stéphel arrêtait sur l'Anglais ce regard spécial aux gens de police qui sont toujours prêts à voir des criminels dans tous ceux avec lesquels ils se trouvent en rapport. « Cela tombe à merveille, » répliqua l'excentrique avec un imperturbable sourire. « Je ne suis précisément venu vous trouver que pour élucider avec vous ces points obscurs auxquels vous faites allusion. » Et Lord Buridan raconta dans le plus grand détail, en reprenant les faits à partir du naufrage de la ville de Frisco, sa captivité à l'île des Pendus, son évasion, sa captivité au Lunatic Asylum, et enfin de quelle manière audacieuse il était parvenu à rentrer en possession de ses biens. Et il termina son récit en narrant à M. Stéphel comment il avait pu découvrir la latitude et la longitude de l'île qui servait de repère aux bandits de la Main Rouge. M. Stéphel avait écouté son interlocuteur sans l'interrompre. Seulement, d'un geste rapide, il avait furtivement noté les chiffres exacts de la longitude et de la latitude. « Je vous remercie beaucoup, Milord, » dit-il. « Les renseignements que vous me donnez là sont précieux, et je compte bien en tirer tout le parti possible pour arriver à l'arrestation des chefs de la bande. J'ai regardé comme un devoir de vous faire cette communication. Je ne me trouve à New York que pour quelques heures encore, et j'en ai profité pour venir vous voir avant de partir en expédition. » « Vous avez fort bien fait, et si je puis vous être utile de quelque façon ?»« Il n'y en aurait qu'une, ce serait de faire en sorte que le gouvernement de l'Union mît à notre disposition un navire de guerre pour nous aider à faire une descente dans l'île des Pendus. » Le policier prit un air grave. « Milord, » répondit-il, « je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour obtenir l'envoi d'un cuirassé. Je vais dès aujourd'hui même demander une audience au directeur de la marine, en lui faisant part de vos révélations qui changent complètement la face de l'affaire. » L'entretien se prolongea pendant plus d'une heure, et ce ne fut qu'après avoir répondu à une foule de questions que lui posa M. Stéphel que Lord Buridan se retira, respectueusement reconduit par ce dernier, jusqu'à l'auto qu'il avait amené. Une fois rentré dans son cabinet, le policier réfléchit un instant. Puis, tout à coup, il sonna le garçon de bureau. « Faites en sorte, lui dit-il, de me procurer le plus tôt possible l'atlas de l'état-major. » édité par les soins du département de la guerre. C'est que, répartit le garçon avec embarras, cet atlas est volumineux. Comme vous le savez, il renferme un grand nombre de feuilles et il constitue presque à lui seul une vraie bibliothèque. C'est juste, mais je n'ai besoin pour l'instant que de la carte du Klondike et des îles voisines. » « Bien, monsieur le directeur. » Une demi-heure après, le garçon du bureau était de retour avec l'atlas demandé. S'armant d'un crayon, M. Stéphel repéra soigneusement sur la carte la latitude et la longitude que lui avait indiqué Lord Buridan. Et il trouva sans peine l'île Saint-Frédéric appartenant aux États-Unis. Évidemment, c'était bien cette île Saint-Frédéric qui était l'île des pendus, la capitale secrète des bandits de la Main Rouge. Un dictionnaire de géographie fournit aux policiers quelques renseignements complémentaires. L'île Saint-Frédéric est située un peu au sud des îles Aléoutiennes, à 100 km environ de l'île Sakhalin. Elle fut découverte au XVIIIe siècle par des navigateurs allemands qui l'appelèrent l'île Saint-Frédéric. Depuis, comme elle ne se trouve sur le passage d'aucun navire, elle était complètement oubliée, non seulement par les marins, mais encore par la plupart des géographes. À un moment donné, elle fut l'objet d'un échange de notes diplomatiques entre la Russie et le gouvernement des États-Unis. Mais ce territoire glacé paraissait à tout le monde si peu intéressant que la question ne fut définitivement tranchée qu'en 1901. À cette époque, elle fut officiellement adjugée à l'Amérique qui, depuis, la concédait à un riche particulier. M. Stéphel eut un malicieux sourire. Fit-il. Je crois que quand je connaîtrai le nom du riche particulier en question, j'aurais fait un sérieux pas en avant dans la connaissance des secrets de la Main Rouge. M. Stéphel avait saisi le récepteur de l'appareil téléphonique. Il demanda la communication avec le ministre des colonies et, grâce aux déclenchements automatiques dont sont munis les téléphones new-yorkais, il obtint cette communication presque instantanément. « Allô ? Qui me parle ? C'est moi, M. Stéphel, le directeur de la police. Voulez-vous prier M. le chef du bureau des concessions coloniales de venir à l'appareil ?»« Me voici. » fit une seconde voix quelques instants après. « Qu'y a-t-il pour votre service, Monsieur Stéphel ?»« Oh, un simple renseignement. Je voudrais savoir le nom de la personne à laquelle a été concédée une petite île qui s'appelle l'île Saint-Frédéric, dans les parages du Klondike. Oh, »« Très facile. L'île Saint-Frédéric appartient à l'heure actuelle à l'un de nos concitoyens, Monsieur Fritz Kram, le fameux marchand de tableaux, qui a fait d'ailleurs, sans beaucoup de succès, je crois, une tentative d'élevage des phoques à fourrure. » « Très bien, merci. C'est tout ce que je désirais savoir. » Et M. Stéphel accrocha le récepteur de l'appareil. En entendant le nom de Fritz Kram, le policier avait cru avoir un éblouissement. Confusément, la vérité lui était apparue comme dans un éclair. M. Stéphel, grâce aux notes de ses agents, n'ignorait pas les fâcheux antécédents des deux frères Cornelius et Fritz. Il savait que l'antiquaire avait été maintes fois soupçonné de servir de receleur aux détrousseurs de musées et aux voleurs internationaux. Dès lors, sa conviction était faite. Il ne s'agissait plus maintenant pour lui que de découvrir les preuves matérielles, ce qui, sans doute, ne serait pas difficile. Disons-le en passant, la mentalité des policiers américains diffère beaucoup de celle des policiers français. Il était arrivé maintes fois, M. Stéphel lui-même, de toucher la forte somme de la part de tenanciers de maisons de jeu, ou même de riches criminels auxquels on permettait, moyennant finances, de gagner l'ancien continent. Le directeur de la police, après mûre réflexion, résolut de ne point brusquer les choses. Peut-être, après tout, y aurait-il moyen de conclure une transaction avantageuse avec le propriétaire de l'île Saint-Frédéric. En proie à ses préoccupations, M. Stéphel se fit conduire immédiatement chez Fritz Kram, qui habitait un luxueux hôtel dans le voisinage de Central Park. L'antiquaire était absent. Il était allé, à ce que dit le domestique, rendre visite à son frère, le docteur Cornelius. M. Stéphel remonta en auto et se fit conduire chez Cornelius où l'Italien Leonello l'introduisit cérémonieusement dans le grand salon d'attente de style Louis XIV. Dès qu'ils connurent la présence du haut fonctionnaire de la police, Cornelius et Fritz accoururent le sourire aux lèvres, la main tendue. Mais ils furent décontenancés par la mine grave et presque menaçante de M. Stéphel. « Sir, dit-il d'une voix brève, ce n'est pas une simple visite de politesse qui m'amène. » Et je crains bien d'avoir à remplir aujourd'hui près de vous une pénible mission. » Le policier guettait du coin de l'œil l'effet de ses paroles sur les deux frères, mais ils ne bronchèrent pas. « De quoi s'agit-il ? » demanda Fritz d'un ton parfaitement naturel. M. Stéphel résolut de brusquer les choses. « Je ne vous cacherai pas, M. Fritz Kram, dit-il, que de graves soupçons pèsent sur vous. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui êtes le propriétaire de l'île Saint-Frédéric, plus connu dans le monde des bandits de la Main Rouge sous le nom de l'île des pendus. » Fritz était devenu blême. Pourtant, ce fut avec assez d'assurance qu'il répondit. Il est parfaitement exact que je suis le propriétaire de l'île Saint-Frédéric, mais il y a bien des années que je l'ai entièrement abandonnée, et je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec vos pendus. »
Drôle d'histoire, murmura doucement Cornelius.
Mais, tout en parlant, il jetait sur M. Stéphel de si étranges regards derrière les vitres de ses lunettes d'or que le policier ne put s'empêcher de frissonner. Il se rappela les bruits qui avaient couru sur les laboratoires souterrains du sculpteur de chair humaine.
Notez bien ceci, crut-il bon de dire, c'est que, si je subissais de votre part la moindre voie de fait au cours de cette visite, les documents que je possède contre vous, et qui sont en main sûre, paraîtraient ce soir même dans trois des plus grands journaux de New York.
Il n'est pas question de voie de fait, dit le docteur Cornelius, toujours parfaitement calme. Nous tenons seulement à avoir quelques explications sur l'étrange accusation que vous faites peser sur mon frère.
Je crois, interrompit Fritz, que M. Stéphel est en train en ce moment-ci de commettre une lourde bévue. Est-ce que des gens comme moi et mon frère, dont la fortune est considérable, qui possédons même une part dans le trust de William Dorgan, pouvons avoir quelque chose de commun avec les bandits de la main rouge ?
Protestation inutile, s'écria M. Stéphel avec emportement. Je sais tout. Vous et votre frère faites partie des lords de la main rouge. J'ai contre vous des témoignages précis.
Fritz et Cornelius échangèrent un coup d'œil rapide. La situation était évidemment embarrassante.
« C'est vous, poursuivit le policier, qui avez enlevé le savant français M. Bondona, que vous séquestrez encore à l'heure qu'il est. C'est vous qui avez longtemps retenu prisonnier l'honorable Lord Buridan. Mais prenez garde, le gouvernement de l'Union va expédier un cuirassé contre l'île des pendus, et ce repère de bandits sera complètement anéanti. Tenez, ajouta-t-il après un silence, le meilleur parti que vous ayez à prendre serait d'avouer carrément, de me donner les noms de tous vos complices. Et peut-être qu'à cette condition, je pourrais obtenir que vous ne soyez pas poursuivi. »
Le docteur Cornelius eut un sourire ironique.
« Je connais cette vieille ruse de guerre, dit-il. Mais nous serions fort embarrassés, mon frère et moi, de vous révéler les noms de nos complices, puisque nous n'en avons pas, et que d'ailleurs, nous ne sommes coupables d'aucun crime. »«
Parbleu ! » s'écria Fritz. « Je devine d'où part cette dénonciation. Elle émane sans doute de ce lord Buridan, tout fraîchement évadé du Lunatic Asylum après avoir assassiné un citoyen américain. »
L'honorable Lord Buridan, reprit M. Stéphel en pesant lentement ses paroles, ignore encore que c'est M. Fritz Kram, le propriétaire de l'île Saint-Frédéric. Je n'ai pas encore jugé à propos de l'en informer.
Vous êtes libre de le faire. Je ne suis pas responsable, moi, de ce qui se passe dans une île déserte et glaciale où je ne suis pas allé depuis des années.
Savez-vous, ce qui se produira si je mets Lord Buridan au courant de la chose, c'est qu'il sollicitera et obtiendra immédiatement l'envoi d'un cuirassé. Dans tous les cas, cette affaire vous causera un tort considérable, même en admettant que vous ne soyez pour rien dans les agissements de la main rouge. »
Fritz et Cornelius commençaient à comprendre où voulait en venir M. Stéphel.
« Je vous affirme, dit le docteur, que mon frère n'a absolument rien à se reprocher. » Et l'enquête que vous mènerez avec votre sagacité habituelle établira certainement son innocence.
« Ce que vous dites est possible, » reprit le policier avec hésitation. « Mais qui ne me dit pas que vous ne chercherez pas à vous soustraire à l'action de la justice ?»«
Tenez, » dit Cornelius, « je vais vous donner une preuve de ma bonne foi. Je vais déposer entre vos mains une caution de 50 000 $. Comme cela, vous serez sûr que ni mon frère ni moi ne chercherons à nous échapper. »
Évidemment, fit M. Stéphel, qui avait amené ses interlocuteurs au point où il voulait les voir, cette proposition milite en votre faveur. Il est possible, après tout, qu'une erreur ait été commise à votre sujet. Avant de déchaîner un scandale tel que celui que causerait votre arrestation, je veux élucider cette affaire en toute impartialité.
Vous reconnaîtrez bien vite que l'on s'est trompé en nous dénonçant. Attendez un instant. « Je vais vous signer le chèque de 50 000 $. »
Le docteur Cornelius traça sur une feuille de son mémorandum quelques lignes en caractères hiéroglyphiques. Puis il sonna Leonello et lui remit le papier. Une minute après, l'Italien revenait avec un carnet de chèques dont Cornelius et Fritz contresignèrent une feuille en y inscrivant le chiffre de 50 000 $. M. Stéphel s'en saisit, enchanté d'avoir si bien conduit une aussi délicate négociation.
« Au revoir, sœur, dit-il en se retirant. Plus je réfléchis, plus je suis persuadé que vous avez été victime d'une dénonciation calomnieuse. Ce n'est pas des hommes comme vous qui sont affiliés à l'association de la Main Rouge. Décidément, cette accusation est absurde, et je vais classer l'affaire. »
N'oubliez pas, monsieur Stéphel, fit Cornelius avec un sourire plein de sous-entendus, que s'il arrivait qu'on nous accusât de nouveau, nous sommes toujours prêts à fournir caution.
Entendu. Au revoir, mes chers amis.
Et tous trois échangèrent une cordiale poignée de main. Tout en traversant le magnifique jardin qui entourait l'hôtel du docteur, M. Stéphel se disait qu'il serait bien sot de s'en tenir à ce premier raconte, et il se proposait de continuer son enquête dans le plus grand secret, quitte à opérer une arrestation en masse de tous les chefs de la Main Rouge, sitôt qu'il serait parvenu à connaître leur nom.
« Je sais bien, parbleu, songeait-il, qu'ils ne me réclameront jamais ces 50 000 $, et que je me suis tacitement engagé à laisser la Main Rouge tranquille. Mais on n'est pas forcé de se montrer honnête avec de pareils bandits. Si Cornelius et Fritz étaient innocents, ils n'auraient pas essayé d'acheter mon silence au prix d'une somme aussi considérable. »
Le policier remonta en auto en criant à son chauffeur.
« À la Central Bank, et mettez de l'avance à l'allumage pour que j'arrive à temps pour toucher un chèque. »
Sitôt que le policier se fut retiré, Cornelius et Fritz se regardèrent anxieusement.
« Nous l'avons échappé belle, » murmura l'antiquaire.
« Le danger reste le même, » répliqua le docteur. « Je n'ai aucune confiance dans ce Stéphel, qui est un maître chanteur sans scrupules. Je suis sûr que maintenant qu'il nous a tiré cette plume de l'aile, il n'aura rien de plus pressé que de nous trahir.
Que faire ?
J'ai déjà donné des ordres à Leonello, sous prétexte de me faire apporter le carnet de chèques.
Je m'étais bien aperçu que tu griffonnais quelque chose, mais je n'avais pas vu de quoi il s'agissait.
Avec des gaillards de la trempe de Stéphel, il faut riposter du tac au tac. En ce moment même, Slug est déjà en route avec la grande automobile, et il se peut que d'ici une heure, nous soyons débarrassés de ce malencontreux policier.
« N'est-ce pas imprudent ? » murmura Fritz avec inquiétude. « Et si Stéphel a, comme il s'en vante, mis en main sur la dénonciation qui nous concerne ?»«
Mais non, je connais Stéphel. Il est bien trop rusé pour s'être confié à qui que ce soit. » Il sait fort bien que du moment où il aurait révélé à quelqu'un le nom du véritable propriétaire de l'île des pendus, il ne serait plus le maître de la situation.
Ceci, dans tous les cas, est une leçon, reprit Fritz. Il est indispensable que l'île des pendus ne soit plus à mon nom. Je vais m'occuper de faire une vente fictive. Je dirai que je me suis débarrassé de cette île glaciale dont il est absolument impossible de tirer parti.
Il y a longtemps que cette précaution aurait dû être prise. Nous devons en ce moment, ne l'oublie pas, redoubler de vigilance. Jamais nous n'avons traversé une période de malchance pareille.
Rien n'est encore perdu.
Non, mais il va falloir déployer beaucoup d'énergie. La Main Rouge a fait des pertes d'argent considérables. Beaucoup de nos affiliés sont en prison et notre prestige diminue. Enfin, nous n'avons réussi aucune affaire importante depuis longtemps. Baruch lui-même a si mal dirigé sa barque que William Dorgan s'est réconcilié avec son fils Harry et a refait un testament où il partage également ses biens entre ses deux fils. Par conséquent, impossible pour le moment de faire disparaître le vieux milliardaire et d'entrer en possession du trust.
Non, il faut attendre. Je tiens à avoir l'esprit en repos au sujet de l'expédition qu'organise contre l'île des pendus Fred Jorgel et ses amis.
« Je suis moi-même un peu à court, » reprit le docteur. « J'ai dépensé ces temps derniers des sommes énormes en expérience, et je n'ai pas obtenu les résultats que j'espérais.
J'ai une intéressante affaire en vue, et qui pourrait faire rentrer dans nos caisses une somme $1 million. »«
By God, cela en vaut la peine. De quoi s'agit-il ?» Fritz mit son frère au courant de la proposition que lui avait faite la veille Balthazar Buxton.
Les deux bandits échafaudèrent minutieusement le plan qui devait les mettre en possession du célèbre tableau du Titien, le portrait de Lucrèce Borgia, actuellement dans la galerie du milliardaire William Dorgan. C'était sur la complicité de Baruch qu'ils comptaient pour arriver à atteindre leur but. Cependant, les deux frères jetaient de temps à autre les regards impatients sur la grande horloge de boule en ébène incrustée de cuivre et d'écailles qui se dressait au fond du salon.
« Slug ne revient pas vite, » grommela Cornelius.
« Malheureusement, je ne puis l'attendre, » répliqua Fritz. « J'ai chez moi un rendez-vous important. »«
Eh bien, va. Je te téléphonerai s'il y a quelque chose de nouveau. »
Je voudrais bien que cette histoire soit terminée. Je tremble que si nous ne nous débarrassons pas de Stéphel, Lord Buridan et ses amis ne viennent à connaître l'exacte situation de la capitale de la Main Rouge. Ne sois donc pas si poltron. Les renseignements que j'ai reçus de San Francisco sont excellents. En ce sens que Fred Jorgel et sa bande sont toujours persuadés que notre île se trouve dans le voisinage du pôle sud. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, toutes nos précautions sont prises. Il faut que pas un des passagers de la Revanche n'échappe au naufrage que je lui prépare. »
Les deux frères prirent enfin congé l'un de l'autre. Chose extraordinaire entre de pareils bandits, ils s'étaient toujours parfaitement entendus entre eux. Jamais ils n'avaient eu une discussion sérieuse. D'ailleurs, l'antiquaire professait à l'égard du savant un véritable culte et s'inclinait toujours très docilement devant ses décisions.